السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Nous poursuivons la lecture du grand livre Sahih Al-Adab Al-Mufrad de l'imam Al-Bukhari رحمه الله تعالى. Et nous reprenons au chapitre Babun man la yarham la yurham. Un chapitre, on ne fait pas miséricorde à celui qui n'est pas miséricordieux. On ne fait pas miséricorde à celui qui n'est pas miséricordieux. La miséricorde envers les enfants et autres que les enfants fait partie de la voie de la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui avait le plus de miséricorde envers les serviteurs d'Allah était le prophète Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit à son sujet « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Aussi, on a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Vous est venu un messager issu des vôtres. Les difficultés que vous subissez lui pèsent lourd, plein de motivation vous concernant. Il est envers les croyants très compatissant et plein de miséricorde, très miséricordieux. Et la rétribution de cette miséricorde est l'obtention de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, Ar-Rahimoun yarhamuhum ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fil sama. Ceux qui sont miséricordieux, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Ayez de la miséricorde envers ceux qui sont sur la terre, celui qui est au-dessus des cieux vous fera miséricorde. Et cette miséricorde a des effets qui s'observent sur la langue et les membres. Et l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala a mentionné ce chapitre, « La yarham man la yurham » ou plutôt « Man la yarham la yurham » Il a mentionné ce chapitre dans son livre « Al-Adab al-Mufrad » pour attirer notre attention. Cette miséricorde fait partie du bon comportement. Et cette miséricorde fait bouger le cœur et affecte la langue et les membres vers le bon comportement. Et celui qui n'a pas cette miséricorde n'aura donc pas le bon comportement. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم. Selon Abu Sa'id رضي الله عنه, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, on ne fait pas miséricorde à celui qui n'est pas miséricordieux. Celui qui n'est pas miséricordieux, on ne lui fait pas miséricorde. Ce hadith, ou lisons le suivant, عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. جرير بن عبد الله رضي الله عنهما nous dit, le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, Allah ne fait pas miséricorde à celui qui n'est pas miséricordieux envers les gens, ou à celui qui ne fait pas miséricorde aux gens. celui qui n'a pas cette qualité, à savoir il n'a pas de pitié envers les gens dans son cœur, ne recevra pas la miséricorde d'Allah. Car la rétribution a lieu en fonction des œuvres du serviteur. La rétribution a lieu en fonction des œuvres du serviteur. Il y a ici un grand encouragement à avoir de la pitié envers les serviteurs d'Allah. Car on a à gagner, on a à obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela n'a pas de prix. Le texte suivant, عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا أي في الإمارة فقال العامل إن لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم فزعم عمر أو قال عمر إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم selon Abu Othman, Omar, radiallahu anhu, employait un homme. Il employait un homme, c'est-à-dire qu'il l'a nommé à un poste en tant que responsable, en tant que dirigeant. Ce dernier lui a dit: j'ai tel et tel enfant. J'ai tel et tel enfant. Et je n'en ai jamais embrassé un seul. Suite à cela, Omar radiallahu anhu lui a dit: Allah ne fait miséricorde qu'à ses serviteurs les plus vertueux. Allah ne fait miséricorde qu'à ses serviteurs les plus vertueux. Ainsi, embrasser ses enfants fait partie de la piété et de la bienfaisance envers eux. Et on voit ici le fait d'orienter celui qui a des lacunes, même si cela peut avoir attrait à la vie privée et à l'éducation des enfants. L'homme pourra avoir tendance à se dire: ce sont mes enfants, je fais comme je veux. Ce sont mes enfants, je fais comme je veux. Cependant, cette volonté doit être régie par des règles supérieures, parfaites, savantes et sages. Donc, dans ce cadre-là, oui. Dans ce cadre-là, oui. Il y a donc le conseil pour l'éducation des enfants, pour l'orientation des enfants, pour le comportement envers les enfants. Notamment ici, cette miséricorde et cette preuve de miséricorde qui est le fait d'embrasser les enfants. On voit également dans ce hadith, comme on l'a déjà mentionné dans des chapitres précédents, le lien qu'il y a entre le cœur et les actions. Le lien qu'il y a entre le cœur et les actions. Le chapitre suivant, Babu ou Babun ar-Rahmatu mi'atu juz. Le chapitre suivant, la miséricorde est de 100 degrés. Il y a 100 degrés de miséricorde. Cette miséricorde est une miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Elle fait partie des effets de sa miséricorde qui est son attribut incréé. Et dans le hadith, إن الله خلق الرحمة مئة جزء. Et dans le hadith, nous avons Allah a créé la miséricorde de 100 degrés. Donc il ne faut pas s'y méprendre. Il ne faut pas confondre l'effet de la miséricorde d'Allah et l'attribut la miséricorde d'Allah. Ar-Rahma, Allah a parmi ses noms Ar-Rahman et Ar-Rahim. Et du nom, il y a l'attribut qui est pris, qui est notamment Ar-Rahma, la miséricorde. Et on dit sur les attributs d'Allah ce qu'on dit sur Allah. C'est-à-dire qu'ils sont incréés, qu'ils sont parfaits, complets. Naam. Après cela, il est à savoir qu'il y a ce qu'on appelle « atharu as-sifa », les effets de l'attribut. Les effets de l'attribut. Le jugement, le hukm, al-fi'l, Allah fait miséricorde et a pitié de ses serviteurs. Parmi ces effets, le fait qu'Allah Azza wa Jal ait mis sans miséricorde, il a créé sans miséricorde. Et dans le hadith mentionné ici, « An Abi Hurayrata radiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, ja'ala Allahu Azza wa Jal ar-rahmata mi'ata juz, fa'amsaka 'indahu 99 » وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. Selon Abu Huraira رضي الله عنه, j'ai entendu le message d'Allah صلى الله عليه وسلم dire: Allah a mis 100 degrés de miséricorde. Il en a retenu 99 auprès de lui et n'en a descendu qu'une seule sur terre, ou qu'un seul sur terre, un degré. Issu de ce degré, ou par ce degré, les créatures se font miséricorde mutuellement, de sorte que le cheval lève son sabot au-dessus de son poulain par crainte de le blesser. Par crainte de le blesser, de le toucher. Dans ce hadith, il y a la mention de 100 degrés de miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala en a gardé 99 auprès de lui. Et il y a ici une nouvelle, une bonne nouvelle, grandiose. Du fait que la miséricorde présente sur terre par la, à travers laquelle les serviteurs se font miséricorde mutuellement n'est qu'un seul degré de 100 degrés de miséricorde. 1 sur 100. Si Allah Azza wa Jal en a retenu 99 auprès de lui, il y a dans cela une très bonne nouvelle. Pourquoi? Car elle sera dispensée le jour de la résurrection lors de la rencontre d'avec les croyants. Il restera 99 degrés que pourront espérer les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Il y a donc dans cela une très grande source d'espoir à placer en notre Créateur Tabaraka wa Ta'ala. Donc on fait attention, la miséricorde qui est annexée à Allah Azza wa Jal, tantôt ce qui est voulu, c'est l'attribut d'Allah, et tantôt ce qui est voulu, c'est l'effet de la miséricorde d'Allah qui est son attribut. Comment reconnaître cela? Bisiyaq, par le contexte. Naam, par le contexte. Par la mention, par les termes. Fanzur ila athari rahmatillah. Si tu lis le verset, regarde donc les effets de la miséricorde d'Allah. Naam. Ici, le terme Rahmatullah, la miséricorde qui est annexée à Allah, ici, c'est son attribut, car avant, il y a le terme Athar, l'effet. Et lorsqu'on nous dit au paradis, il y a 1000 miséricordes, Lil Jannati Elfu Rahma, ici, c'est l'effet de la miséricorde. Puis le prophète alayhi salatu wa salam illustre cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam illustre cela. Il nous dit, issu de ce degré, les créatures se font miséricorde mutuellement. De sorte que le cheval lève son sabot au-dessus de son poulain par crainte de le blesser. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi et a spécifié le cheval d'entre l'ensemble des animaux? Car les gens voient face à eux les chevaux. Premièrement, il n'a pas c'est un animal qui est loin dans la vue des serviteurs. Deuxièmement, le cheval est très rapide et a des mouvements brusques. Naam, il est rapide et il a des mouvements brusques. Donc cela est très parlant et très judicieux de sa part, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas mentionné des bêtes féroces qui vivent loin dans la savane. Car on ne visualise pas cela face à nous, on n'a pas l'habitude d'en croiser et d'en voir. Le chapitre suivant, Baboun al-wasatu bil-jar. Non. Le chapitre suivant, les recommandations à l'égard des voisins. Ici, l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé ce chapitre au sujet des voisins ainsi que les chapitres suivants. L'auteur entre dans un nouveau thème, il s'agit des voisins, leur importance en islam et leur grand droit sur nous. Ils ont des droits, nous avons des obligations à leur égard. Et cette noble législation est venue pour nous ordonner le respect du voisinage, le respect des droits des voisins, pour nous enseigner que leur place est très élevée en islam, ainsi il nous faut leur faire bénéficier de notre bienfaisance, na'am, et de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé. Et très nombreux sont les textes qui nous montrent que cela fait partie des nobles comportements de l'islam. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de recommandations à l'égard du voisin. Al-wasatu bil-jar, c'est-à-dire al-wasiyatu bi. Quels sont les droits du voisin sur son voisin? De manière résumée, tu dois le préserver de tes nuisances et de celles de ta famille, et tu dois le faire profiter du bien qu'Allah Azza wa Jal t'a octroyé, faire preuve de bienfaisance envers lui. En résumé, voici. Le préserver des nuisances et le faire bénéficier de la bienfaisance. À titre d'exemple, lorsque tu le rencontres, tu le salues. Lorsque tu le rencontres, tu lui donnes un visage détendu, tu lui souris, tu l'honores. Lorsque tu ne le vois pas, un temps déterminé, tu cherches après lui, tu prends de ses nouvelles. Lorsque tu fais tes courses ou lorsque tu fais à manger, tu essayes de penser à lui et de lui donner quelque chose, selon ta capacité. Lorsqu'il est malade, tu le visites. Lorsque ses enfants ont un besoin, tu essayes de l'aider. En son absence, tu veilles sur son foyer. Et ainsi de suite. Voici en résumé les droits du voisin. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous mentionne le hadith de Aïcha radiallahu anha. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Aïcha radiallahu anha dit le message, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Jibril alayhi salam ne cessa de me conseiller à l'égard du voisin jusqu'à ce que j'ai pensé qu'il allait être parmi les héritiers. Jibril ne cessait de me faire des recommandations à l'égard du voisin jusqu'à ce que j'ai pensé qu'il allait être parmi les héritiers. Ce hadith nous montre la répétition et la récurrence des recommandations de Jibril au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc un droit très important qui doit être rappelé. Pourquoi cela? Car le voisinage n'est pas une chose qui sera occasionnelle, mais c'est une chose de jour comme de nuit, qui ne cesse. Donc, les recommandations doivent être récurrentes. Que signifie que Jibril ne cessait de me faire des recommandations? C'est-à-dire, il me recommandait la bienfaisance à l'égard du voisin, la générosité à l'égard du voisin, m'acquitter de mes devoirs à l'égard du voisin, le préserver de toute nuisance, et ainsi de suite. Cela était tellement récurrent et l'importance a tellement été marquée, le prophète nous dit « Hatta vanantu annahu sayuwarithu » à un point tel que j'ai pensé qu'il allait avoir le droit à l'héritage. C'est-à-dire qu'il allait lui donner le droit à l'héritage par l'ordre d'Allah. Par l'ordre d'Allah. C'est Allah qui légifère et Jibril alayhi salam est un messager parmi les anges, tout comme le prophète Mohammed alayhi salam est un messager parmi les humains. Donc on a pensé que le voisin allait avoir une part de l'héritage. Donc, il y a ici la grande recommandation à l'égard du voisin. Et l'importance s'est manifestée ici par deux points. Premièrement, la récurrence, la répétition de la recommandation. Et deuxièmement, à un point tel qu'on a pensé qu'il allait avoir le droit à l'héritage. Qui a le droit à l'héritage? Ce sont tes plus proches, ceux qui ont les droits les plus spécifiques sur toi, ben on a pensé que le voisin allait en faire partie. Le voisin a donc une place incommensurable, très importante, qu'il faut connaître et respecter. Il nous faut donc étudier ces hadiths avec le plus grand soin, puis appliquer en espérant qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde le bon comportement envers les voisins. Pourquoi tant de recommandations à l'égard du voisin? Comme on l'a dit, parce qu'ils sont proches. Les demeures sont proches ou même collées. Donc, tu vas les rencontrer fréquemment, régulièrement, journalièrement. Le lien est en continu avec eux. Et s'il y a une nuisance, même minime, la récurrence de cette nuisance peut amener à avoir une qualité de vie invivable, un mode de vie invivable, peut amener à l'inimitié envers les voisins, la dissension et la divergence entre les enfants des voisins, les épouses des voisins, et ainsi de suite. À cause de quoi? À cause de la proximité des demeures et la récurrence de la nuisance. Donc, il faut prendre cela en considération. Ajouter à cela que le voisin peut avoir besoin de son voisin en cas d'urgence, en cas de voyage, en cas d'urgence à l'hôpital. Il peut, s'il a un bon voisinage, laisser ses enfants et partir en urgence et ainsi de suite. Il peut avoir un problème chez lui, une inondation ou autre. Le plus proche apte à lui porter secours sera son voisin. Barakallah fikum. S'il est malade, le plus proche à pouvoir l'aider sera son voisin. La recommandation envers le voisin et donc de le protéger de ta nuisance. Quelle que soit la nuisance, ne la minimise pas. Qu'elle soit abstraite ou concrète, qu'elle soit par à travers le bruit, qu'elle soit à travers l'odeur, qu'elle soit en regardant chez lui, en l'espionnant, en l'écoutant. Naam, il faut préserver le voisin. Il faut préserver le voisin. Particulièrement s'il y a des femmes et s'il y a des jeunes filles. Et cette qualité était même présente avant l'islam. Elle était présente dans la jahiliya. Or, tu trouves certains musulmans qui ont de grandes lacunes dans ce chapitre, qui pourtant étaient respectés par des gens de la jahiliya, avant l'islam. Il y a un poète jahili qui est Antara. Il dit dans une partie de son poème, wa aruddu tarfi ma badat li jarati, et je baisse mon regard lorsque ma voisine passe. Et je baisse mon regard lorsque ma voisine passe. Hatta yuwari jarati ma'waha, jusqu'à ce que ma voisine atteigne sa demeure. Il ne l'observe pas, il ne cherche pas après elle, il ne la voit pas telle une proie avec laquelle il souhaite désobéir Allah Azza wa Jal et trahir le voisinage. Non. Mais il sait qu'Allah Azza wa Jal le surveille. Ça, c'est un poème dans la jahiliya. Mais ils avaient cette qualité. Le musulman est plus à même de respecter le voisinage que les gens de la jahiliya qui n'étaient pas sur le Coran, qui n'était pas sur la Sunna. Le hadith suivant, an Abi Shuraih al-Khuza'i, radiallahu anhu, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a qal, man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir fal yuhsin ila jari, wa man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir fal yukrim dhaifa, wa man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir fal yakul khayran aw liyasmud. D'après Abu Shuraih al-Khuza'i, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit bon avec son voisin. Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité. Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise un bien ou se taise. » Qu'il dise un bien ou se taise. Dans ce hadith à nouveau, il y a la recommandation envers le voisin. Ce hadith comporte trois parties. Toutes commencent par « Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir » « Quiconque croit en Allah et au jour dernier ». Trois recommandations qui commencent par la foi en Allah et au jour dernier. Pourquoi cela? La foi en Allah. Allah, c'est le Seigneur immense, celui qui a la perfection absolue dans ses noms, ses attributs, ses actions. C'est donc la seule divinité digne d'être adorée. Et le jour dernier, c'est le jour des comptes, le jour du jugement et de la rétribution. Ainsi, celui qui obéit à Allah sera récompensé. Celui qui désobéit à Allah méritera une sanction. Et en répétant ce principe, la foi en Allah et la foi au jour dernier, il y a des grandes leçons. En concrétisant la foi en Allah, le cœur, et en concrétisant la foi en Allah et au jour dernier, le cœur sera rempli de ces notions-là. Ça affectera la langue et les membres sur la droiture et l'obéissance d'Allah. Tout comme ça affectera la langue et les membres dans l'éloignement face à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, Tu vas te rappeler Allah, la divinité qui mérite l'adoration, celle devant laquelle tu te sou face à laquelle tu te soumets, celui que tu aimes par-dessus tout, ton Seigneur, et tu te rappelleras qu'après la mort, tu seras ressuscité pour être jugé. En ayant cela dans ton cœur et en remplissant ton cœur de ces notions-là, tu vas vouloir obéir à Allah et tu vas vouloir t'éloigner de sa désobéissance. Le cœur, s'il est saint, tout le reste du corps le sera. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Alayna fil jasadi mudra, idha salahat salah al jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al jasadu kullu, ala wa hiya al qalb. » Il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est saint, s'il est bon, tout le reste du corps le sera. S'il est mauvais ou corrompu, tout le reste du corps le sera. Quant à celui qui a une faiblesse dans le cœur, quant à la foi en Allah et au jour dernier, il y aura une faiblesse qui découlera sur la langue et sur les membres. Il y aura de la faiblesse dans la réponse à l'appel d'Allah, il y aura de la faiblesse dans l'obéissance d'Allah, il y aura de la faiblesse pour délaisser la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Tout croyant, tout musulman a foi en Allah et au jour dernier. Mais il y a des degrés. Il y a des degrés. Quel est le degré de la foi au jour dernier qui va faire que la personne va délaisser les péchés et qui va faire que la personne va obéir à Allah Azza wa Jal? C'est pas le simple degré de croire au jour de la résurrection, la ressuscitation, la résurrection na'am, le jugement, le paradis et l'enfer. Ça, tout musulman y croit. Et il n'a aucun doute en cela. Par cela, il est croyant. Par cela, il est croyant. Mais il y a un degré au-dessus. C'est l'enracinement de cette foi qui remplit le cœur au point où le serviteur a, yani, se rappelle de cela de temps à autre au point de s'éloigner du péché et d'aller vers les bonnes œuvres. Car l'état de ce cœur a amené la réforme de la langue et la réforme des membres. La première recommandation. La première recommandation. Qu'il soit bon avec son voisin. Qu'il soit bon avec son voisin. Après avoir mentionné donc cette anaphore, l'anaphore, c'est le fait de répéter un même mot, une même expression en début de phrase. Ici, c'est « Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ».« Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ». La première recommandation est qu'il honore son invité. Qu'il honore son invité. Ou plutôt qu'il soit bienfaisant même envers son invité. Et c'est la partie témoin pour laquelle l'imam al-Bukhari a mentionné ce hadith sous ce chapitre. Avons-nous dit qu'il fasse tel bien ou tel bien à son invité, ou avons-nous laissé une portée générale à cette bienfaisance? La règle dit « Hadful muta'allaq » Le fait de supprimer volontairement la sorte de bienfaisance apporte la généralité. Le prophète nous dit qu'il soit bienfaisant envers son voisin. Il n'a pas envers son voisin. Il n'a pas dit qu'il soit bienfaisant en lui donnant de la nourriture, en lui offrant des cadeaux, en le préservant de telle ou telle chose. Non, il a laissé cela afin que ça ait une portée générale. Donc, la bienfaisance envers le voisin, en le saluant, en lui souriant, en l'aidant, en portant ses courses, en se rendant disponible, utile, en lui recommandant le bien, en l'éloignant du mal, en questionnant sur son état, sa situation, ses besoins, en préservant son honneur, en lui dispensant le conseil sincère, en le prémunissant de toute nuisance. Il faut absolument unir entre ces deux notions-là. Être bienfaisant envers lui et le préserver de nos nuisances. Certains désormais disent « Je ne veux plus la bienfaisance du voisin. Je veux simplement la paix. » Subhanallah, je veux simplement la paix. Ils ont tellement subi des nuisances de la part de leurs voisins que pour un voisin qui ne leur fait pas de mal, qui ne leur cause pas de gêne, est un voisin d'excellence. Comment savoir si tu es un bon voisin ou pas? Pose-toi cette question. Qu'aimerais-tu recevoir de la part de ton voisin? Ce que toi tu aimes, c'est en général ce que lui aime. Naam. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. Nul parmi vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Naam, pour lui-même. Dans le hadith de Ma'adha de Anas, dans le Bukhari et Muslim, il nous dit également, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abdullah ibn Amr, apporté par An-Nasa'i, rahimahullah, وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَ إِلَيْهِ. Et qu'il soit avec les gens comme il aimerait qu'on soit avec lui. Donc ainsi, tu pourras peser ton voisinage sur la balance. Les gens aiment le bien, aiment le bon comportement, aiment recevoir des plats et de la bienfaisance. Aiment qu'on les salue avec un visage détendu. Les gens aiment qu'on ne les dérange pas aux heures de repos. Les gens aiment qu'on ne dérange pas leur passage avec des épluchures, naam, ou avec des déchets, ou avec des mauvaises odeurs, ou avec du cri, ou avec des bagarres d'enfants, et ainsi de suite. La deuxième recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَ, qu'il honore son invité. Qui est le ضَيْف? Le ضَيْف, contrairement aux idées reçues, ça n'est pas le visiteur. Ça n'est pas ton ami qui te visite. Le ضَيْف, c'est celui qui est venu de l'extérieur. Celui qui est venu de l'extérieur, donc il a voyagé, et qui t'a visé toi personnellement par ce voyage. C'est cela qu'on appelle un ضَيْف, un invité. Celui-ci n'a pas, l'aisance qu'il a dans sa ville, les connaissances des chemins de sa ville, et ainsi de suite. Donc, tu vas lui accorder ce confort et cette orientation. Tu vas lui accorder ce confort en l'accueillant chez toi, en le nourrissant, en lui accordant le repos, et cette orientation, c'est-à-dire en l'orientant pour ses besoins dans cet endroit. Barakallahu fikum. La troisième recommandation est « فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُتْ » qu'il dise du bien ou qu'il observe le silence. Dans cette troisième partie du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne le contrôle de notre langue. Et il nous appelle à méditer avant de nous exprimer. Le mot avant de sortir t'appartient. Une fois qu'il est sorti, c'est lui qui te possède. C'est lui qui te possède. Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit, وَقُولُ لِلَّاسِ حُسْنَا, et dit aux gens le bien. Et il nous dit, وَقُولُ لِعِبَادِي يَقُولُ اللَّتِي أَحْسَنِ, et dit à mes serviteurs de dire ce qu'il y a de meilleur. C'est-à-dire, tu as le choix, lorsque tu t'exprimes, d'utiliser plusieurs mots. Mais si tu n'utilises pas les meilleurs, le shaitan trouvera une brèche par laquelle il entrera et semera la dissension entre toi et les autres. Donc, ça n'est pas parce qu'Allah Azzawajal t'a doté de la faculté de parler que tu dois dire tout et n'importe quoi. Mais tu dois surveiller ta langue, apprendre à te taire, apprendre à observer le silence, c'est-à-dire tu te tais malgré la capacité à dire, à t'exprimer. Puis, tu pèses tes mots, puis tu réfléchis. Dire cela, est-ce un bien ou un mal? Puis si c'est un bien, est-ce que les conséquences seront bonnes ou mauvaises? Est-ce que c'est sage de le dire maintenant ou pas? Est-ce que cette personne est apte à écouter cela maintenant ou pas? Et ainsi de suite. Donc il faut surveiller la langue. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Man samata naja » Quiconque observe le silence, « re'amada » obtiendra le salut. À l'inverse, on comprend que celui qui ne sait pas se taire périra. Celui qui ne sait pas se taire périra, car il deviendra esclave de ses mots. Et celui qui ne contrôle pas sa langue aura beaucoup demandé pardon, à beaucoup s'excuser. Et celui qui ne s'excuse pas sera souillé par l'orgueil, et il ne voudra plus se rabaisser, et il périra ainsi. Wal'iyadu billah. Donc, قُلْ خَيْرًا تَغْنَمْ أَوْ سْكُتْ عَنْ شَرٍ تَسْلَمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْدَمْ. Dis du bien, tu gagneras. Ou tais-toi face à un mal, tu seras en sécurité. Sinon, tu regretteras. Tu ne prononces pas une parole sans qu'il y ait un scribe prêt à l'inscrire. Puis ces feuillets te seront déployés le jour de la résurrection et il y aura la balance et le jugement le jour des comptes. Certaines personnes ont une shahwa, ou un désir et un vice dans la parole. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le contrôle de leurs mots, telle une tentation irrésistible. Ils n'arrivent pas à se retenir. Même lorsqu'ils le veulent, ils en ont tellement pris l'habitude de parler qu'ils n'arrivent pas à se contenir. C'est comme ceux qui rient de jour comme de nuit et qui sont toujours dans les blagues. Lorsqu'il faut être sérieux, ils ont un rire qui prend le dessus. Certaines personnes arrivent même à rire lors des enterrements. Ça en devient un toc. Wal'iyadu billah. Ben, c'est la même chose pour la parole. Si tu n'as pas appris à te taire, à méditer avant de parler, tu n'arriveras même pas à te taire. Tu n'arriveras même pas à observer le silence. Naam. Et c'est une des grandes causes de divorce. Le fait de ne pas contrôler la langue, c'est une des grandes causes de divorce. L'homme a tellement l'habitude de parler, d'insulter, d'invectiver, que le divorce sort sur sa langue sans qu'il ne s'en rende compte. Ou alors, la femme a tellement l'habitude de parler sans retenue, sans respect, qu'elle en arrive à pousser l'homme à prononcer le divorce alors qu'il est la personne la plus éloignée de cela. Wala hawla wala quwwata illa billah. Combien de familles ont été détruites à cause d'une langue? Combien de divorces? Combien de coups de pioche ont été mis au-dessus d'une montagne et d'un édifice immense pour le pulvériser à cause de la langue? Combien de gouttes de sang ont été versées et de guerres ont été déclenchées à cause de la langue? Combien de fraternité et d'amour fort et prononcé ont été dévastés à cause de la médisance et du colportage fait par la langue des shayatines parmi les humains? Combien de mots se propagent sur la terre d'Allah Azzawajal et de désordre à cause de la langue? Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il faut revenir à Allah Azzawajal, qu'Allah nous pardonne, nous réforme et nous aide à contrôler cette langue pour dire du bien ou pour observer le silence. Et si on regarde, subhanallah, Allah Azzawajal nous a donné une langue. Mais où est cette langue? Elle est derrière deux mâchoires, une supérieure, une inférieure. Il y a les gencives, il y a les dents, il y a les lèvres. Il y a tout cela qui renferme la langue. Malgré ça, la personne parle et ne se fatigue pas toute la journée, toute la nuit, toute la matinée. Et un coup de langue peut faire plus mal qu'un coup d'épée. Wabillahi tawfiq. Donc, celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il soit bienfaisant envers son voisin. Ton comportement envers ton voisin est un signe de ta foi. À travers ton voisinage, ton comportement envers tes voisins, tu peux établir ou juger de l'état de ta foi. Tu peux juger de l'état de ta foi. La personne à qui on dit en faisant telle chose, tu vas faire du bien et honorer le voisin. Si il a goût à cela, s'il est motivé pour cela, s'il aimerait avoir les moyens de faire cela, c'est un signe de la force de sa foi. À l'inverse, celui qui, lorsqu'il nuit à ses voisins, tu lui fais le rappel et dis « je n'ai que faire de cela et je suis chez moi, mais c'est de sa faute, mais elle se plaint pour rien, mais ceci, mais... » Ça, c'est un signe de la faiblesse de la foi. C'est un signe de la faiblesse de la foi. Et certes, le voisin peut être injuste. Certes, le voisin peut exagérer. Certes, le voisin peut nous causer du tort. Mais est-ce que cela rend légitime le fait de bafouer ses droits qu'Allah lui a accordés? Est-ce que cette fausse excuse nous rend légitime le fait de ne pas appliquer les ahadiths du prophète alayhi salatu wassalam? Certainement pas. Comme on le verra dans les chapitres suivants. Le chapitre suivant, Babun Haqqul Jar. Le chapitre suivant, le droit ou les droits du voisin. Les droits du voisin. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, poursuit dans les chapitres sur la grande place du voisin en islam. Et il met ce chapitre, Haqqul Jar, les droits du voisin, pour nous montrer ce qu'il nous incombe comme devoir envers nos voisins et quels sont les droits qu'ils ont sur nous. Et parmi les plus grands droits sur nous, le fait qu'on ne leur nuise pas et qu'on n'attende pas à leur honneur, leur bien et leur intégrité. Naam, tout cela est sacré. Et si tu ajoutes à cela des liens de parenté, alors l'affaire est encore plus importante que cela. Car le péché a une base, mais sa grandeur et sa gravité s'observe par différents paramètres. La fornication, par exemple, si cela est commis avec, yani entre célibataires, c'est grave et c'est un grand péché. Mais si c'est commis entre personnes mariées, c'est plus grave. Et si c'est commis avec la personne qui est proche de toi, c'est encore plus grave. Et si c'est dans le voisinage, c'est encore plus grave, et ainsi de suite. Si c'est commis par la personne qui est âgée et vieille, c'est encore plus grave, car les causes qui amènent à cela sont affaiblies. Si c'est dans un moment sacré, comme le mois de Ramadan, c'est encore plus grave. Si c'est dans un endroit méritoire, c'est encore plus grave. Et ainsi de suite. Il y a donc plusieurs paramètres. Des paramètres sur la personne, des paramètres sur le moment, des paramètres sur l'endroit, et ainsi de suite. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, nous dit « Anil Miqdad ibn al-Aswad, radiyallahu anhu, qal, sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ashabahu anil zina. Sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ashabahu anil zina. » قالوا حرام حرمه الله ورسوله فقال على أن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره وسأله عن السرقة قالوا حرام حرمه الله عز وجل ورسوله فقال أن يسرق لأن يسرق من عشر ومن عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. Selon ou d'après le Miqdad ibn al-Aswad radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interrogea ses compagnons au sujet de la fornication. Ils dirent, c'est illicite, Allah et son messager l'ont interdit. Il a donc dit qu'un homme commette la fornication avec 10 femmes est moins grave que s'il la commet avec la femme de son voisin. Puis, il les interrogea concernant le vol. Ils répondirent, c'est illicite. Allah et son messager l'ont interdit. Il a dit qu'un homme commette 10 infractions chez des gens est moins grave que s'il vole dans la maison de son voisin. Dans ce hadith, on voit une des pédagogies utilisées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'enseignement. Il attire leur attention et capte totalement leur être avant de leur transmettre le message. Il les interroge, il les questionne, il les maintient dans le cours. Les compagnons ont répondu à ces questions, haramun, c'est interdit. D'accord, comment savoir si une chose est interdite ou non? Ils dirent, Allah et son messager l'ont rendu interdit. C'est-à-dire, c'est dans le Coran et la Sunna. C'est dans le Coran et la Sunna. C'est ça le jugement. C'est haram. La personne a l'obligation de s'en éloigner et si elle commet cet acte-là, elle mérite une punition chez Allah Azza wa Jal. Après avoir attiré leur attention sur l'interdiction évidente de cet acte et la gravité de cet acte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « La ayyazni al-rajulu bi'ashri niswatin aysaru ali » que l'homme commette la fornication avec 10 femmes, c'est moins grave pour lui, c'est-à-dire dans la punition et la gravité du péché, na'am, que de commettre la fornication avec l'épouse du voisin. Pourquoi? Car en plus d'avoir commis ce péché gravissime, il a détruit le droit du voisin. Il n'a pas respecté le précepte énoncé par Allah dans le Coran, transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. Il n'a pas protégé le caractère sacré, la sacralité du voisinage. Il a nui à son voisin au plus haut point, au plus haut degré. Son obligation était de protéger l'honneur de son voisin. Son obligation était de préserver l'honneur de l'épouse de son voisin. Et lui a fait totalement le contraire. Ensuite, il a mentionné le vol. Et leur a dit, après qu'ils aient reconnu l'interdiction du vol et que c'est un péché gravissime, afin que la personne vole chez 10 personnes, dans 10 foyers, est moins grave que s'il volait dans la maison de son voisin. La base est que tu préserves les biens de ton voisin et que tu sois 2 yeux en plus pour lui de sa présence et surtout en son absence. Aussi, le voisin est une personne de qui on se sent à l'abri des infractions. Il se voit donc en sécurité, contrairement à l'étranger et à celui qu'il ne connaît pas. Ajoutez à cela, parmi les choses qui montrent la gravité, c'est que le voisin connaît les moments d'entrée et de sortie de ses voisins. Il connaît également les membres du foyer. Ainsi, est dans une position où il peut facilement voler son voisin, rentrer par effraction. C'est pour cela qu'on a mis des barrières très solides et des sanctions très graves et qu'on a immensifié ce péché. À l'inverse, celui qui ne le connaît pas, celui qui habite loin, sera obligé de mener une enquête, sera obligé d'observer quand est-ce qu'il rentre, quand est-ce qu'il sort, qu'il y a dans cette maison, qu'il y a dans cette famille, quels sont leurs moyens, et ainsi de suite. Pour toutes ces raisons, l'islam a immensifié le droit du voisin pour le préserver. On voit à travers ce hadith, « Tafawutu al-dhunub bi'tibaratin kathira » On voit que les péchés prennent en gravité et que le pécheur endosse en punition plus ou moins en fonction de différents paramètres. Et dans Irathatul Lahfan, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a une parole très importante à ce sujet. En résumé, il dit que la personne commette le péché avec une seule autre personne est moins grave que s'il commettait ce péché avec beaucoup ou avec tout le monde. Que la personne fasse ce péché en public est plus grave que s'il se cache pour le commettre. Troisièmement, que la personne cache son péché après l'avoir fait est moins grave que celui qui va le raconter et informer autrui après l'avoir commis. Que la personne commette la fornication avec une femme qui n'est pas mariée est moins grave que celui qui commet la fornication avec une femme qui est mariée. Que la personne... Naam. Car là, en plus de commettre une injustice, il aura détruit le lit conjugal, que la personne commette la fornication avec l'épouse du voisin est pire que celui qui commet la fornication avec une femme qui habite loin. Que la personne qui commet la fornication avec l'épouse du, je pense qu'on les appelle le contingent, yani les gardes frontières, naam, les gardes frontières et les gens de l'armée qui sont dépêchés dans des missions pour préserver la sécurité du pays est plus grave que de commettre la fornication avec une femme qui n'est pas épouse d'une telle personne. Ça, yani cela est du point de vue de l'acteur et de la personne qui, avec qui l'acte est commis. Il y a un deuxième paramètre à prendre en considération, c'est le temps. Le mois de Ramadan, par exemple. Le troisième paramètre, le lieu. Le lieu. Le chapitre suivant, Babun yabda'u bil jar. Le chapitre suivant, on commence par le voisin. On commence par le voisin. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous mentionne ce chapitre dans son livre Al-Adab al-Mufrad pour nous montrer que fait partie du bon comportement le fait de dispenser sa bienfaisance en commençant par son voisin avant les autres. En commençant par les voisins avant les autres. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Selon Abdullah ibn Omar, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Jibril n'a cessé de me faire des recommandations au sujet du voisin jusqu'à ce que j'ai pensé qu'il allait lui donner le droit à l'héritage. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبحت له شاه فجعل يقول لغلامه أهديت لجارنا اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. D'après Abdullah ibn Omar, ou plutôt d'après Abdullah ibn Amr, radiallahu anhuma, on égorgea pour lui une brebis. Ensuite, il demanda à son servant, en as-tu offert à notre voisin juif? J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Jibril ne cessait de me faire des recommandations à l'égard du voisin jusqu'à ce que j'ai pensé qu'il allait lui donner le droit à l'héritage. Yusini Biljar, il ne cessait de lui faire des recommandations à l'égard du voisin. Le fait de commencer par dispenser sa bienfaisance au voisin entre dans la généralité de la recommandation de Jibril au prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'égard du voisin. Et le fait qu'il ait répété cela maintes et maintes fois montre qu'il faille commencer par lui. Et dans le hadith d'Abdallah ibn Amr radiallahu anhuma, on voit la grande compréhension et la grande science des compagnons. La grande science des compagnons des textes et du voisinage. Car dans le hadith, il n'y a pas la mention de l'islam. C'est-à-dire, le prophète n'a pas dit que Jibril n'a cessé de lui faire des recommandations au sujet du voisin musulman, jusqu'à ce que j'ai pensé qu'il allait lui donner le droit à l'héritage. Mais en faveur du voisin. Ça englobe donc les musulmans parmi eux, mais également les non-musulmans. On voit donc ici la grande compréhension des compagnons du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant au fait que la recommandation envers les voisins est générale. Elle englobe donc le musulman et celui qui n'est pas musulman. Ainsi, lorsqu'une brebis fut sacrifiée, Abdullah ibn Amr a ordonné à ce qu'on partage de la brebis pour l'offrir aux voisins. Et il a posé une question à son serviteur, à son employé, et il a répété cette question pour montrer l'importance et pour appuyer cela. En as-tu offert à notre voisin juif? Puis il a utilisé comme preuve et argument qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Jibril ne cessait de me faire des recommandations à l'égard du voisin jusqu'à ce que j'ai pensé qu'il allait lui donner le droit à l'héritage. » Ceci est fait en présence de ses enfants. Ceci est fait au foyer. Il y a donc à travers cela une excellente éducation. Et en faisant ça, tu feras grandir tes enfants dans le bien, car ils vont être habitués à voir l'importance que tu donnes aux voisins. Et le souci qu'il y a chez toi dans la bienfaisance envers les voisins. Tantôt ils te voient leur offrir de la viande, tantôt ils te voient leur offrir une soupe, tantôt ils te voient leur offrir un plat, tantôt ils te voient leur offrir des œufs, des fruits, des légumes, un jouet pour les enfants, un cadeau pour les parents et ainsi de suite. Tantôt tu les visites lorsqu'ils sont malades, tantôt tu prends de leurs nouvelles, tantôt tu demandes à ton épouse « ça fait longtemps que j'ai pas vu tel et tel voisin ». Et ainsi de suite. Donc il va comprendre, cet enfant, il va comprendre que le voisin est très important. Il faut lui faire du bien et il ne faut pas lui nuire. Il grandira dans ce bien et une fois que lui fondera son foyer, à son tour, il aura ce comportement. Et une fois qu'il aura lui des enfants, à son tour, il les éduquera. Et c'est ainsi que la boucle, na'am, tournera. Barakallahu fikum. Quant au voisin qui n'est pas musulman, cette bienfaisance, na'am, dans l'intention, il faut mettre le fait de faire pencher son cœur vers l'islam. Faire pencher son cœur vers ce cadeau inestimable, vers cette vers ce joyau inestimable. Tu lui fais montrer à travers ce comportement-là la miséricorde qu'il y a en islam. Et sachez que la plus grande miséricorde, la plus grande bienfaisance que l'on puisse faire pour son voisin, c'est de l'inviter à l'islam, de lui expliquer ce qu'est l'islam et de faire dua afin qu'Allah le guide, en espérant qu'Allah Azza wa Jal lui accorde l'islam par ta cause. Et rappelez-vous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il envoya Ali ibn Abi Talib « La ayahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humri na'am » Par Allah, qu'Allah guide une seule personne par ta cause à l'islam, est meilleur pour toi que d'obtenir les chamelles rousses, c'est-à-dire les richesses les plus prisées chez les Arabes à cette époque. Barakallahu fikum. Et en de nombreuses années, en 10 ans, en 20 ans, j'ai de nombreux témoignages de convertis à l'islam qui disent que la cause de leur guider fut le voisinage qu'Allah Azza wa Jalla leur a accordé. Naam. Un tel était voisin de telle famille malienne. Leur porte était ouverte. Les enfants rentraient et sortaient. On recevait des plats de tchèb, des plats de mafé, des pastels. Et lorsqu'elle croisait sa mère, elle la saluait comme si elle revenait de voyage. Naam. Les malien, lorsqu'ils se saluent, c'est pas salam alaykoum, alaykoum salam, et ils se séparent. Non. Ils se saluent, ils prennent des nouvelles, des parents, des enfants, de la tata, de la tantie, de. Subhanallah. Naam. Jusqu'à ce qu'on en rigolait lorsque nous étions petits. Et une fois que nous avons grandi, on a compris. Naam. On a compris. Étant petit, on en a ri, et en ayant grandi, on a compris, walhamdulillah. Et cela a été la cause de leur mada, de leur guide à l'islam. L'un d'eux me dit, et c'était un camarade dans les études à l'étranger, il dit c'est ma deuxième mère. Il avait des voisins maliens, il me dit c'est ma deuxième mère, c'est elle qui m'a élevé, c'est elle qui me gardait, c'est elle qui m'a nourri, c'est elle qui m'a orienté, c'est elle qui m'a fait arrêter les bêtises, tout cela avec l'aide et l'assistance d'Allah Azza wa Jalla. Regardez l'importance du voisin. Et les Arabes disaient, tu n'achètes pas la terre, yani lorsque tu vas acheter un terrain pour construire une maison, tu achètes le voisinage. Et la valeur n'est pas selon la terre, elle est selon le voisin. Elle est selon le voisin. Si tu peux habiter à côté d'une famille pieuse, wallahi, que c'est un bienfait que tu es loin, dont tu es loin d'imaginer la valeur. C'est mieux de payer bien plus cher son loyer ou la terre ou la maison ou ainsi de suite pour avoir un bon voisinage, na'am, que de faire des économies sur cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la sa'ada, du bonheur. Na'am. Il a parlé du bonheur. Et parmi le bonheur, il y a le voisin pieux et vertueux. Le voisin pieux et vertueux. Barakallahu fikum. Donc on comprend, ou bien la science qui est dispensée ici est que lorsque tu veux faire un bien, tu penses à ton voisin. Le chapitre suivant, Babun yuhdi ila aqrabihim baba. On offre à celui dont la porte est la plus proche. On offre à celui dont la porte est la plus proche. C'est-à-dire, celui qui veut offrir quelque chose et qu'il n'en a pas assez, mais qu'il n'en a pas assez pour offrir à tous ses voisins. Par qui devra-t-il commencer? On a compris dans le chapitre précédent qu'il doit commencer par ses voisins, certes. Mais si il a deux choses à offrir, mais qu'il a quatre, cinq, six voisins, par qui devra-t-il commencer? L'imam al-Bukhari mentionne ce chapitre pour nous répondre. Il commence par celui dont la porte est la plus proche, son plus proche voisin. An Aisha radiallahu anha qalat, qultu ya Rasulallah, inna li jarayn, fa ila ayyihima uhdi, qala ila akrabihima min kibaban. Aisha radiallahu anha demanda au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ô messager d'Allah, j'ai deux voisins. À qui dois-je offrir entre les deux? Il répondit, à celui qui est le plus proche de ta porte. À celui des deux qui est le plus proche de ta porte. Naam. La question de Aïcha, radiallahu anha, montre l'importance que les compagnons accordaient aux voisins. Au point de questionner le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, juste pour offrir quelque chose, subhanallah. Yani, ils sont arrivés au niveau de la bienfaisance envers les voisins et de se rapprocher d'Allah, azza wa jal, et de gravir les échelons au paradis et, dans la place chez Allah, qu'ils en sont arrivés à demander, j'ai un présent, je veux l'offrir, à qui je le donne, entre ces deux voisins. Et Ani, ils étaient méticuleux dans la recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jal, après avoir gravi des échelons, c'est-à-dire qu'ils avaient consolidé les bases, ils avaient accompli les actes surrogatoires, ou plutôt méritoires, naam, ou plutôt méritoire, un point tel qu'ils en sont arrivés à étudier le meilleur des deux biens pour l'accomplir et le pire des deux maux pour s'en éloigner. Lorsqu'on pose la question auquel de deux je vais offrir ce cadeau, c'est qu'on n'en a pas assez pour les deux. Sinon, ce qui est voulu, c'est d'offrir aux deux. Mais là, on n'a pas assez pour donner aux deux. Une autre leçon qu'on tire de ce hadith, al-ilmu qabla al-qawl wa al-amal, c'est que la science vient avant la parole et les actes. Tu dois d'abord apprendre avant de dire et de faire. Tu dois apprendre avant de dire et de faire. Aïcha a posé la question avant de faire. Contrairement à ceux qui font et disent « j'ai un doute » ou « je ne sais pas trop, j'ai fait ceci et cela, est-ce que c'est bon ?» Non, il faut poser la question avant de faire. La base, c'est cela. Dans le cas contraire, tu poses quand même la question après. Le prophète Salem lui répond « celui qui a sa porte la plus proche de la tienne. Pourquoi ?» Car le plus proche voisin est celui qui voit le plus et qui est le plus susceptible de voir ce qui rentre chez toi comme bien. Quand tu viens avec tes courses, quand tu apportes des cadeaux à tes enfants, quand tu apportes un présent pour ton épouse, et ainsi de suite. Donc ceci est visible. Naam, ceci est visible. Pareillement pour son épouse, pareillement pour ses enfants, il voit tout ce qui entre, yani une partie de ce qui entre dans ton foyer. Ajoute à cela, lorsque tu cuisines, ils sentent les bonnes odeurs en général. Et lorsque tes enfants marchent, ils voient leurs vêtements. Et lorsqu'ils jouent, ils voient leurs jouets. Tout ce bien-là, qui est-ce qui en témoigne le plus? Ce sont les voisins qui habitent le plus proche de ta porte. Et certes, les cœurs peuvent s'attacher aux choses de ce bas monde, particulièrement s'ils ne possèdent pas ce que tu possèdes comme bien. Ainsi, pour être bienfaisant, pour adoucir le cœur, pour préserver de l'envie et de la jalousie, l'islam nous recommande de commencer par celui qui a la porte, la plus proche, pour que le bien se répande et que le mal diminue. Barakallahu fikum. Pour finir ce cours, Babun al-Adna fal-Adna min al-Jiran. Chapitre suivant, les voisins du plus proche au plus lointain. C'est-à-dire, lorsque tu veux faire parvenir ton bien au voisin, tu commences du plus proche au plus lointain. عن الحسن selon الحسن الحسن رحمه الله fait partie des savants chez les tabi'in أنه سئل عن الجار il a été interrogé concernant le voisin فقال أربعين دارا أمامه وأربعين خلفه وأربعين عن يمينه وأربعين عن يساره الحسن a été interrogé au sujet du voisin il a répondu 40 maisons devant toi 40 derrière toi 40 à sa droite, ou plutôt 40 derrière, je reprends. Al-Hassan a été interrogé concernant le voisin. Il répondit 40 maisons devant soi, 40 derrière soi, 40 à sa droite et 40 à sa gauche. C'est-à-dire, des quatre directions, toutes les demeures à 40 maisons à la ronde, Naam, font partie de tes voisins. Si tous ces gens-là sont considérés comme étant nos voisins, quel sera donc ton comportement à leur égard? La bienfaisance, la droiture, non? Et probablement que tu n'as pas les moyens de donner à 40 maisons à la ronde. Dans ce cas-là, toi qui es motivé pour faire le bien et frapper aux portes de toute législation d'Allah Azza wa Jal, dans la bienfaisance, la piété et la vertu, tu vas forcément te poser la question, par qui vais-je commencer? Naam, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala te met ce chapitre pour te dire, commence de la porte la plus proche à la plus lointaine. Par exemple, tu as 3 cadeaux, naam, et tu as 10 voisins. Tu as 4 cadeaux et tu as 10 voisins. Par qui est-ce que tu vas commencer? Tu vas donner au premier qui est devant toi, au premier qui est derrière toi, au premier qui est à ta droite, au premier qui est à ta gauche. Naam, tu vas donner au plus proche. Ceci est une règle. Cependant, tu prendras en considération les autres paramètres, autres que la proximité. Il se peut que parmi ses voisins, il y ait ton frère, ta tante, tes parents et ainsi de suite. Alors tu commenceras à ce moment-là par tes parents. Parce que ce paramètre-là est plus fort que le paramètre de la proximité. Un autre paramètre, le besoin des voisins. Si les 4 premiers voisins sont dans la suffisance ou la richesse, et que le 5e seulement, lui, est dans le besoin, ben le 5e passera avant pour combler son besoin et celui de sa famille. Il faut donc prendre en considération les différents paramètres. Et le savant n'est pas forcément celui qui connaît le bien du mal, mais celui qui connaît le meilleur des deux biens. Mais celui qui connaît le meilleur des deux biens. Donc il faut réunir les différentes preuves, puis regarder l'ordre préconisé en islam en questionnant les gens de science. هذا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.